Point de vue avec Régie Bulle Immobilier.
Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je vous souhaite la bienvenue à la BCF Arena. L'enregistrement de ce podcast se fait en public et vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation. On vous en remercie. Un peu moins de deux mois après avoir accueilli Christian Dubé à notre micro, nous recevons donc Andrei Bikov. Salut Andrei.
Salut à tous.
J'en profite aussi pour saluer ma chère collègue Patricia Morand. Salut Pam.
Salut François, cher collègue. Salut Andrei.
Cette saison, il n'y a pas que Gotteron qui bat des records. Si les Dragons n'avaient encore jamais dépassé la barre des 100 points, notre podcast n'avait jamais eu autant d'auditeurs. Et cet épisode va permettre de battre encore deux autres records, en tout cas, celui du public le plus nombreux. Encore une fois, merci. Et on a dû refuser du monde. On s'en excuse pour ceux qui n'ont pas pu être présents pour cet enregistrement en public. Record aussi du plus grand nombre de messages reçus pour notre invité. On a fait une petite story sur Instagram cette semaine et beaucoup de gens t'ont posé des questions, Andrei, et t'ont adressé des messages de félicitations et de remerciements. On y reviendra. En tout cas, ce n'est pas vraiment une surprise tant tu es apprécié et populaire auprès des fans fribourgeois. Tu pourras peut-être battre donc un troisième record aujourd'hui, c'est celui du nombre d'auditeurs. Ça, on verra après le podcast en fonction des chiffres. Un record que vient de battre Slava Bikov, ton papa. Est-ce que tu as écouté le podcast?
Oui.
Qu'est-ce que t'en as pensé?
J'étais très ému en l'écoutant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu répondre à une interview, pardon. Et non, il s'en est très bien sorti. Et il a, malgré les années, il a réussi à conserver son accent. Donc, c'était très bien.
T'es prêt à battre ce record? Alors, t'as dit que c'était un objectif.
Non, c'est bon.
On verra. En tout cas, je pense que beaucoup de gens se réjouissent de t'entendre aussi. On va évidemment parler de toi, parler des playoffs à venir, de tes 19 saisons à Fribourg. Pas dans le détail, je te rassure, mais dans les grandes lignes. On va aussi parler de ton avenir. Beaucoup de questions à ce sujet, évidemment. Mais avant tout, on va prendre des nouvelles de ta santé, parce qu'actuellement, tu es blessé depuis 2 semaines et demie. Tu ne peux pas jouer. Alors, comment vas-tu?
Très frustré, c'est un moment compliqué, c'est pas le comme ça que je voyais ma fin de saison régulière, surtout que j'étais dans une bonne phase, dans un bon trend, et puis c'est un coup d'arrêt un peu difficile. Et puis au début, j'avais l'impression que la blessure était pas trop grave et puis que je pourrais revenir assez vite, mais finalement j'ai dû m'arrêter un peu plus longtemps. Et puis là, je vais gentiment reprendre la glace cette semaine pour essayer d'être prêt le plus vite possible et le mieux possible, parce que évidemment, du moment où on a le feu vert du médecin pour retourner sur la glace, il faut aussi reprendre la forme, parce que quelques semaines sans pouvoir patiner avec les coéquipiers, on le perd très vite. C'est très difficile de recréer les conditions de match ou les conditions du hockey simplement hors glace. Donc ça va être tout un processus de retrouver le plus vite possible la forme et puis de pouvoir garder mon corps en santé et d'être tout de suite performant pour ces moments importants. Donc je sais pas quand ça sera, mais en tout cas je vais faire le maximum pour être là le plus vite possible.
Le 16 mars, ça risque d'être un peu court pour le premier match, ou tu y crois?
J'y crois, mais voilà, je vais devoir écouter mon corps et puis au final, ça sera la décision du coach qui va dire si il me trouve prêt ou pas.
Tu étais quand même sur la glace lundi passé à la fin du match contre Berne pour remercier les fans qui avaient déployé en début de rencontre un tifo géant. Tu t'y attendais à cette manifestation de soutien du public? Comment tu l'as vécu?
Alors, j'ai commencé à recevoir quelques messages, d'abord via sur les réseaux sociaux, puis ensuite le club qui m'a demandé comment évoluait ma blessure, parce qu'effectivement, il voulait faire une attention pour moi, et j'imagine qu'il voulait aussi qu'il comprenait que je voulais être sur la glace pour vivre ce moment, et puis malheureusement c'était pas possible, donc je savais que quelque chose allait arriver, et puis finalement ils m'ont dit que ça allait être ce jour-là, et puis honnêtement j'étais très déçu de vivre ce moment depuis le banc, mais c'était intense, c'était grandiose. Et puis j'ai pu le faire avec ma fille, donc c'était aussi cool.
Tu étais où au moment où ils ont déployé le tifo?
Sur le banc. Assis sur le banc, et puis elle était sur mes joues. Elle va avoir 3 ans, donc elle comprenait pas trop ce qui se passait. Elle était surtout contente de voir le dragon et puis la fumée. Et puis c'est pour ça qu'elle adore venir ici pour l'instant, c'est de voir le dragon. Et puis du coup elle a passé un bon moment, elle mangeait son petit tuc, et puis moi je regardais la banderole descendre, et puis je pleurais comme pas possible. Et puis elle se retourne vers moi, et puis elle me dit un seul truc, elle me dit j'ai soif. Et puis c'est chou en fait, parce que on se rend compte que ils sont un petit peu dans leur monde, et puis ça m'a fait du bien, ça m'a fait rire. Et puis ensuite on est allé dans le vestiaire, et puis on a bu un petit peu d'eau.
On a la petite Gug qui demande justement qu'est-ce que tu as pensé de ce tifo. C'était pas le plus petit qu'on ait vu ni le plus moche, hein. Ils se sont donné de la peine.
Ouais, ils m'ont cité les personnes qui étaient responsables de ce tifo m'ont envoyé une vidéo de cette réalisation, et puis c'est là aussi où on se rend compte de l'ampleur du travail qu'il y a eu derrière, que des gens prennent sur leur temps libre les week-ends pour pouvoir réaliser quelque chose comme ça. C'était beau, quoi. Et puis c'est un souvenir pour la vie, et puis peu importe la taille, pour moi juste le geste était très beau.
On va parler un peu de cette saison de Gotteron, une superbe saison que vous bouclez à la deuxième place. Quelles sont selon toi les raisons de ce succès? On a l'impression qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont permis d'aligner les planètes et de vous permettre de réussir ces résultats.
Déjà, la saison passée, je pense que ça nous a aidé. Le fait d'avoir une déception aussi forte en fin de saison, de louper les playoffs pour un point, et puis ensuite de se faire sortir dans ces play-in, je crois que ça s'appelait encore comme ça.
Pré-playoff, c'est maintenant play-in, mais voilà. C'est vrai que ça change chaque année.
ça a déclenché quelque chose, et j'ai tout de suite ressenti pendant la préparation d'été où les gars étaient vraiment très investis, travaillaient avec beaucoup de sérieux, avec vraiment une envie de passer à un niveau supérieur. Et puis il y a des joueurs qui ont pris le lead dans cet été, et puis qui ont vraiment montré la voie. Et puis tout le monde a travaillé très fort dès le départ, et l'ajout de plusieurs éléments individuels, le retour de certains joueurs a créé une nouvelle dynamique dans l'équipe. Et puis on a très bien repris le championnat, et je pense que beaucoup de joueurs individuellement ont réalisé une de leurs meilleures saisons en carrière. Ça aide énormément, et puis on a eu une cohésion de groupe qui est extraordinaire. C'est beaucoup de facteurs très importants, et puis de la chance aussi. On a été beaucoup épargné par les blessures, on a eu 2-3 joueurs qui étaient blessés, donc ça a beaucoup aidé pour les résultats. Et puis plus la saison avançait, plus on se rendait compte que aussi c'était spécial d'avoir une patinoire qui est pleine à craquer toute l'année. C'est hallucinant. Je pense pas que on peut rêver mieux en fait en tant que hockeyeur. Le résultat, c'est cool, c'est génial de finir deuxième, mais de pouvoir évoluer tous les soirs devant une patinoire pleine, c'est magique.
Tu parlais de cohésion d'équipe, on entend souvent, oui, l'ambiance est bonne. Là, tu as dit extraordinaire, ça veut dire que l'ambiance est bonne, ça veut dire que oui, ça va juste. Puis extraordinaire, c'est vraiment une ambiance à laquelle on peut s'attendre.
On est comme des frères en fait. On n'est pas juste des collègues de travail. C'est beaucoup plus fort que ça. Et puis, c'est quelque chose qui s'est créé au fil des années. Et puis, c'est beau.
Tu as parlé avant de l'échec de la saison dernière qui vous a aidé à être performant cette saison. C'est uniquement au niveau... Enfin, voilà, dans un coin de la tête, en début de saison, ça aide à repartir, ou c'est vraiment présent régulièrement dans vos discours? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé et vous voulez effacer cette... cette déception, comment ça se traduit?
Non, il n'y a pas eu de discussion, mais j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une prise de conscience. Et puis, certains joueurs, ça les a marqués. Et puis, l'envie de mieux faire, quoi. Mais non, c'est pas quelque chose qui est... Je pense que c'était un peu peut-être le point de départ ou l'étincelle qui nous a vraiment mis sur le droit chemin. Et puis, mais il y a tellement d'éléments, tellement de facteurs qui ont joué en notre faveur, qui fait que cette saison était exceptionnelle en tout point.
On n'aime pas trop, quand on est joueur d'un sport collectif, mettre en avant des individualités, mais on est quand même obligé de parler un tout petit peu du duo Sorensen-Valmark. Valmark parce qu'il est arrivé l'été dernier, puis on sent qu'il apporte quand même beaucoup à cette équipe. Et puis Sorensen qui réalise une saison extraordinaire, dans le sens où c'est vraiment très rare qu'un Fribourgeois arrive en tête du classement des compteurs. Ça faisait presque 30 ans que ce n'était pas arrivé. Et en plus, il a scoré énormément. Comment on vit aux côtés de ces deux joueurs? On essaye de s'en inspirer, on les admire, on se réjouit pour eux. Quel est un peu l'état d'esprit?
C'est un peu un mix de tout ce que tu viens de dire. C'est impressionnant, puis c'est surtout en fait dès les matchs amicaux, dès les premiers entraînements qu'on a vu qui s'entendaient vraiment bien, puis qu'il y avait un truc qui se passait, puis on s'est dit mais est-ce que ça va durer, est-ce que c'est seulement les matchs amicaux, est-ce que c'est contre des adversaires qui sont plus faibles, et puis ben les matchs commencent à passer, puis ils démontrent une facilité déconcertante à chaque match où ils ridiculisent les adversaires soir après soir avec tellement... Ça donne l'impression que c'est facile, mais c'est tellement dur à faire. Ils jouent avec énormément de confiance et puis avec beaucoup de plaisir. Et puis ils discutent tout le temps ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Et je crois que Lucas a été très important cette saison pour Marcus. Les gens le voient peut-être pas, mais ils discutent beaucoup avec, ils l'aident beaucoup. Et puis ils sont très beaux à voir. Et puis le plus cool dans cette histoire, c'est que ces deux personnalités qui sont très touchantes, qui pensent au bien de l'équipe avant tout, ça peut paraître fou, mais c'est vrai. C'est vrai que quand on voit ce genre d'individualité, d'habitude on se dit ouais, mais c'est plus des personnes un peu égoïstes ou... Mais là, c'est tout sauf ça. C'est vraiment l'équipe avant tout. Ils le disent encore. Ils s'en foutent s'ils vont faire un ou deux points ou pas du tout, tant que l'équipe gagne. Et puis, c'est des valeurs qui sont superbes. Et puis, effectivement, quand on les voit, on peut que s'en inspirer. Pas essayer de refaire la même chose parce que c'est un peu dur. Et puis, c'est leur rôle. Mais non, c'est très bien. Et puis, je suis surtout content pour les plus jeunes Fribourgeois qui puissent avoir l'occasion de voir ce genre de joueurs et puis s'en inspirer. Et puis, de pouvoir essayer de reproduire ça après sur la glace. Et puis, c'est des magnifiques exemples. Et puis, j'espère que ça va profiter à une génération de jeunes hockeyeurs.
Toi-même, dans ta longue carrière, tu as eu l'occasion d'évoluer ou d'apprendre d'un duo similaire?
Moi, j'essaie de m'inspirer de tous les joueurs qui sont autour de moi ou de tous les joueurs qui gravitent dans le championnat dès qu'il y a un geste, dès qu'il y a un mouvement, une passe ou une phase de jeu qui m'intrigue. J'essaie tout de suite d'essayer de comprendre ce qui s'est passé puis d'essayer de le recréer. Je pense qu'on peut trouver de l'inspiration puis de la beauté dans tout ce qu'on voit. Et puis j'essaie aussi de le faire en dehors de la glace, mais peu importe le coéquipier, j'ai toujours essayé de trouver des bonnes choses chez eux puis de les mettre en valeur.
Grâce à vos bons résultats, donc vous terminez deuxième de la saison régulière, ça veut dire que vous aurez l'avantage de la glace en quart de finale, en demi-finale aussi si vous vous qualifiez. À quel point c'est vraiment un avantage? On dit aussi, sur le premier match, ça met beaucoup de pression parce que l'adversaire arrive et peut, s'il perd, c'est presque normal, tandis que si le favori perd, il se retrouve tout de suite dos au mur. Enfin, est-ce que toi, tu vois ça quand même comme un réel avantage?
Totalement. On se sent bien chez nous. On a eu des émotions extraordinaires et puis c'est important de savoir que ce genre de choses peuvent se passer. C'est clairement un avantage, ouais.
C'est un avantage plus en termes d'émotion ou aussi les habitudes, le voyage, les siestes que certains font l'après-midi. En plus, là, vous allez aller au Tessin, donc ça va pas mal chambouler le rythme entre un match à domicile et à l'extérieur.
Tout à fait. Et je pense, comme tout le monde, j'espère que tout le monde se sente plus ou moins bien à la maison. Pour nous, c'est le cas d'avoir ce public derrière nous, d'avoir nos petites habitudes, d'être dans notre vestiaire, de pouvoir dormir à la maison, les siestes, etc., de venir au dernier moment au match. C'est clair que c'est très agréable. Mais le match se joue quand même sur la glace. Elle est là, c'est la même quasiment à Ambri ou Lugano. Il y a l'aspect effectivement psychologique d'être mené au score à la maison dans ces premiers matchs qui peut qui peut être troublant, qui peut être difficile. Je pense qu'on a, on a assez d'expérience dans l'équipe et les joueurs savent que, ça, que c'est une éventualité, que ça peut arriver. Mais voilà, au final, ça reste quand même quelque chose de bien de finir devant.
Au moment où on enregistre ce podcast, on ne connaît pas encore l'adversaire de Gotteron. Il y a eu un seul match de play-in. On l'a dit, ça sera soit Lugano, soit Ambrì. Je ne vais pas te demander l'équipe que tu préfères, mais peut-être une petite comparaison entre ces deux équipes. Comment tu les juges? Elles ont terminé très proches l'une de l'autre. 7e Lugano, 8e Ambrì.
Ambrì, c'est une équipe qui fonctionne depuis tant d'années à l'émotion. Ils me font penser un peu à mes débuts à Gotteron, où on a pu renverser des monstres, entre guillemets, que ce soit des Bernes, des Zurich. C'est une équipe qui fonctionne beaucoup à l'émotionnel, et puis c'est des équipes qui sont très dangereuses de ce côté-là. C'est un peu imprévisible, mais c'est une équipe qui se repose sur des très bonnes unités spéciales. Il me semble qu'ils ont un excellent power play. Et puis voilà, sur le papier, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'ils ont une équipe qui est moins intéressante, moins bien lotie que celle de Lugano, qui de l'autre côté a un peu plus de peine dans les situations spéciales. Et puis c'est par contre une équipe qui joue très bien, avec une très bonne structure, une équipe contre qui on a eu pas mal de soucis en début de saison. Et puis voilà, en playoff c'est différent, les équipes s'adaptent à l'adversaire, il y a beaucoup de tactique qui est fait, donc ça change, c'est un autre championnat. Ça reste deux équipes très, très coriaces, donc j'ai pas de préférence.
Le fait d'avoir perdu l'année passée le pré-playoff contre Lugano, est-ce que ça peut jouer un rôle où tout le monde a tourné la page? Il y a des joueurs qui ont changé, mais il y en a qui étaient déjà là aussi.
Ça peut clairement être une motivation supplémentaire, ouais, totalement. Donc on préfère avoir Lugano.
Voilà, j'ai compris.
Une envie de revanche quand même.
Oui, tout à fait, je pense. En plus, comme j'ai dit, c'était des matchs très disputés tout au long de la saison. C'est, je crois, la deuxième ou troisième meilleure attaque du championnat. Donc c'est aussi une équipe qui est bien lotie offensivement. Donc ça peut créer une très belle série, ouais.
Tu le disais toi-même et on l'entend régulièrement, c'est un autre championnat qui commence, c'est un autre style de jeu aussi. Qu'est-ce qui change vraiment? Pourquoi c'est si spécial, les playoffs?
L'intensité sur chaque présence, ou cette impression, ce devoir que chaque présence sur la glace peut être décisive. Il y a tout qui augmente, la vitesse, la précision, le jeu physique, les émotions. Donc ouais, c'est pour ça que c'est très important de réaliser un bon départ, et puis de pas regarder trop loin, de rester dans le moment. Effectivement, rien n'est acquis après cette saison, à part l'avantage de la glace dans les deux premiers tours. Donc j'ai vécu des désillusions, j'ai vécu des moments incroyables où on termine 8e juste où on en renverse le premier, etc. Donc on en voit ça chaque année, donc c'est pour ça que c'est une nouvelle saison qui commence. Et puis c'est difficile de se reposer juste sur le classement pour aller chercher l'idée d'aller en finale, etc. C'est sûr qu'on a emmagasiné de la confiance, on a prouvé qu'on pouvait battre tout le monde, et puis qu'on avait un groupe qui était solide, solidaire, et qui a la possibilité, tout le monde le sait, tout le monde le dit, on le pense aussi, d'aller le plus loin possible. Mais voilà, ça reste qu'il faut quand même faire le job avant.
Oui, et puis toi qui es depuis très longtemps ici, tu dois avoir aussi faim d'aller un petit peu plus loin que même pas un tour. Il n'y a pas eu beaucoup de qualifications ces 10 dernières années.
Tout à fait, ça manque. On a eu un peu ce frisson d'émotion quand on a sorti Lausanne l'année passée. Et puis on s'est écrasé après contre Zurich.
C'était il y a 2 ans, juste pour que...
Il y a 2 ans?
Ouais.
Ouais, j'ai pas dit ça.
T'as dit l'année passée.
L'année passée, merci.
Mais c'est zappé le Lugano, c'est bon.
Oui, merci. C'est l'émotion. Et effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu revivre ça. Mais je suis persuadé que dans les années qui vont suivre, ça va être quelque chose qui va arriver souvent.
Le président a déjà annoncé lors du dernier match que lui visait le titre. J'ai envie de dire, comme toujours, il parle toujours du titre, Hubert Weber. Vous, vous y pensez forcément, vous en avez envie, j'en doute pas. Mais comment t'abordes ces playoffs? Est-ce que c'est quand même plus du match après match, pas après pas, ou il faut être ambitieux et regarder loin devant? C'est quoi le meilleur état d'esprit à avoir? Est-ce qu'il faut claironner partout que Gautheron sera champion?
Je pense que c'est bien d'avoir ces ambitions. Claironner, c'est dur quand même. Mais l'état d'esprit doit clairement rester dans le moment présent, dans cette idée de match après match, de pas regarder trop loin, parce que on peut vite se perdre dans ce genre d'état d'esprit. Et c'est important de réaliser en fait la chance qu'on a de pouvoir vivre ce moment-là avec ce groupe, parce que c'est quelque chose qui passe. L'année prochaine, il y aura une autre dynamique, ça, c'est une autre saison. Et je me souviens de la saison de la finale, quand on perdait 2-0 contre Berne, en rentrant de la capitale, Hans Kossmann nous a dit que cette finale, ça fait 94, 95 que la dernière finale est arrivée, là c'était 2013. Il a fallu attendre autant d'années pour que Fribourg se retrouve en finale. Il a dit, vous savez jamais la prochaine fois que vous serez en finale, donc réalisez que maintenant vous êtes là, ça peut pas juste vous filer entre les doigts. Ce discours a marqué tout le monde, on est revenu à 2-2 dans la série, c'était très beau. Et puis je pense qu'il faut avoir le même état d'esprit, c'est que même pas forcément du moment où on est en finale, du moment où on arrive en playoff, de se rendre compte que ce moment-là est spécial et qu'il ne faut pas le laisser passer.
Et puis pour qu'il soit réussi et qu'il y ait un sourire à la fin de la saison, pas besoin forcément d'un titre, ça peut être un beau parcours, mais c'est quoi un beau parcours? Est-ce que le deuxième doit forcément aller en finale?
Un beau parcours, c'est un parcours où tous les joueurs ressortent avec le moindre regret possible, en ayant l'impression d'avoir tout donné, où le public surtout ressente la même chose. Et je pense qu'il y a eu un peu de ça contre Zurich, ouais, il y a 2 ans. Et je pense que c'était un beau parcours parce que il y a eu de l'émotion, et puis il y a eu cette impression en tout cas que tout le monde a essayé de donner le maximum. Il y a eu des défaites un peu cruelles vu qu'il y en a eu beaucoup en prolongation, mais je pense que le public a ressenti les mêmes émotions que nous, et puis pour moi ça c'est un beau parcours.
Merci pour ces explications donc sur la saison actuelle, d'un point de vue collectif, d'un point de vue individuel. Dis-nous, comment tu l'as abordé cette saison? Parce qu'on sait que l'année passée, il y avait eu beaucoup de discussions, de longues discussions pour la prolongation de ton contrat. Et puis après, c'est une nouvelle saison qui commence, des nouveaux coéquipiers, l'été qui arrive. Est-ce que c'était quand même déjà une saison un peu spéciale pour toi, ou avec ton expérience, c'était une parmi 19 autres?
Je l'ai abordé avec vraiment beaucoup de légèreté et très peu de pression, parce que je partais dans l'idée d'être 14e attaquant, comme on me l'a promis. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'ai quand même pu avoir pas mal de temps de glace, donc je me sentais bien, je me sentais investi. Mais tout au long de la saison, je savais que c'était une éventualité que ça soit ma dernière. Donc on est un petit peu tiraillé par ce genre d'idées. Et on essaie d'en faire le meilleur, et puis de donner le mieux de soi-même, en sachant que c'est peut-être les derniers moments qu'on vit, quoi, en fait, avec cette équipe. Et je me sentais bien dès le départ, dans le rôle que j'avais, et je prenais beaucoup de plaisir, et puis je trouvais qu'on avait une bonne alchimie avec les joueurs qui jouaient, et puis ça se passait plutôt bien. Je faisais comme d'habitude pas beaucoup de points, mais j'avais beaucoup de plaisir dans le job que je faisais, et puis je me suis beaucoup épanoui aussi dans les infériorités numériques, où je suis très très fier de savoir que j'ai pas encaissé un but cette année en infériorité numérique. Et c'est de me dire quand même à la fin de ma carrière, de pouvoir me dire ça, en sachant qu'à la base j'étais un attaquant porté vers l'offensive, j'aurais jamais pensé dire ça, et je trouve que c'est un feeling assez cool. Et puis voilà, jusqu'au moment où on m'a annoncé que j'allais pas être reconduit, ça se passait plutôt bien. Et puis c'est pour ça que j'avais l'impression de mériter, puis d'avoir une chance encore de pouvoir jouer encore une saison. Et puis voilà, ensuite ben, c'était un peu une période un peu spéciale pour moi, c'est fait, mais c'était aussi un déclic. Et puis quand on est revenu de ces fêtes, j'ai passé un mois de janvier incroyable, et puis un début de mois de février aussi du tonnerre, où j'ai pris un plaisir énorme dans une super ligne. Et puis je pense qu'on a eu du succès en plus en équipe, donc ça s'est super bien passé pour moi.
Puis c'est là que tu as accumulé les points.
Ouais, beaucoup de points, c'était trop cool.
Ça veut dire quoi, que tu étais vraiment libéré par rapport à ce que dont tu parlais avant?
Ouais, je savais pas trop comment ça allait se passer émotionnellement, comment j'allais gérer tout ça, et puis finalement ça s'est passé assez vite. J'ai eu pas mal de déclics, et je suis passé par beaucoup d'états d'âme en très peu de temps, et j'ai l'impression qu'après 2-3 jours j'ai réussi à faire la part des choses, et puis ça m'a rendu beaucoup plus fort. C'était un feeling génial, et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ce genre d'expérience.
Tu disais quand même à un moment donné, enfin au début de saison, tu pouvais imaginer que c'était peut-être la dernière, et puis après, en t'écoutant, on a quand même l'impression que tu étais un peu surpris qu'ils n'aient pas proposé quelque chose. C'est par rapport à ton niveau de jeu, tu disais je mérite un contrat, c'est par rapport au timing, et qu'est-ce qui a rendu le moment si compliqué, puisque tu t'y attendais peut-être un peu, mais pas trop.
Non, alors mon niveau de jeu, ouais, moi je trouvais qu'il était bon, que je faisais, pour le rôle qu'on me donnait, je faisais les choses bien. Et puis ensuite j'en ai discuté avec les dirigeants, et ça s'est passé finalement assez vite. Et puis je leur ai demandé qu'ils me répondent assez rapidement aussi, et ça a été le cas. Et donc ils m'ont dit ça, ils ont respecté ma demande de me le dire rapidement. Et puis voilà.
C'est totalement digéré maintenant pour toi ?
Non, je regrette quand même de ne pas pouvoir continuer quoi, avec ce club, avec Fribourg.
Mais la manière dont ça
s'est
passé...
Oui, c'est totalement digéré. Et puis ce qui est très important quand il y a... des divergences d'avis, d'opinions sur des discussions, sur quoi que ce soit. C'est très important d'essayer de mettre les choses à plat et de discuter pour essayer de comprendre l'autre personne. Et puis, aussi, c'est très important de savoir pardonner et puis d'avancer. Et tout le monde en sort vainqueur.
Bon, l'autre personne, c'est, on va pas trahir de secret, c'est Dubé. Vous n'êtes peut-être pas les meilleurs amis du monde. Ruf Tom nous demande, est-ce que ta dernière vision commune que tu as avec Dubé, c'est les vestimentaires?
Capillaire peut-être aussi,
capillaire
au niveau de la barbe.
Aussi.
Bon, t'as les cheveux plus courts quand même.
Au niveau de la barbe, j'ai dit. Ouais, j'ai les cheveux, ça devient cata là. C'est bon, tu veux répondre?
c'est une alarme.
Non, écoute, je respecte la figure que c'est. C'est notre entraîneur. C'était notre directeur sportif. Et on peut avoir des divergences avec tout le monde, peu importe, mais c'est important de respecter. Et puis, au final, on veut la même chose, on veut gagner, on a le même but commun, donc voilà.
Il y a des gens aussi qui souhaitaient ou qui auraient bien voulu te voir quitter Gotteron en même temps que Julien Sprunger. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé, quelque chose qui t'aurait fait plaisir ou qui était important pour toi, ou finalement chacun a sa carrière et veut jouer le plus longtemps possible et que c'est pas du tout lié?
Pour nous, c'était logique qu'on arrête ensemble. C'était évident, en fait, pour nous deux.
Vous auriez dû négocier ensemble aussi.
Non, ça, c'est autre chose encore. On n'a pas le même rôle, on n'a pas... C'est différent. On a quasi négocié ensemble une année. Mais là, non, c'est différent. On n'est pas les mêmes éléments dans l'équipe, et puis c'est ainsi. Mais non, c'est... Franchement, nous, on se voyait pas arrêter... séparément. Et puis mais moi je suis très content qu'il puisse continuer avec cette équipe et puis avec ce club, et je suis très content pour le club et puis Voilà.
Tu as envie vraiment de continuer ?
Oh ben si j'avais pu continuer avec Fribourg, c'est évident. Ouais.
Donc ça veut dire que si c'est pas avec Fribourg, c'est peut-être pas le cas ?
Ben, j'ai annoncé ce matin à mes coéquipiers que je mettais fin à ma carrière.
C'est vrai ?
Oui.
Ben, sacrée info, ça veut dire que t'as pas trouvé d'autres clubs, il n'y a rien eu d'intéressant, rien eu de concret. Comment ça s'est passé cette décision ? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu disais « j'aimerais encore jouer au hockey ». Donc, quel a été le cheminement de ces derniers jours ?
De ces derniers jours,
semaine.
Ouais, il y a semaine, effectivement, c'était une éventualité qui était là.
J'imagine voilà, que c'est difficile pour toi de parler de ce moment-là, parce que tout sportif, eh bien, à un moment donné, doit arrêter. Tu aurais forcément souhaité une autre fin ou choisir ta fin. Tu es un peu mis devant le fait accompli. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autres options pour toi.
Alors non, j'ai la chance de pouvoir choisir ma fin quand même. Parce qu'évidemment, j'avais des discussions qui étaient bien avancées. J'ai dû remettre aussi une discussion qui était intéressante cette semaine, mais que j'ai finalement décidé de pas aller parce que je me suis dit que c'était le bon moment pour moi d'arrêter pour différentes raisons, des raisons familiales aussi, et de pouvoir aussi finir en dragon, c'est cool.
C'est important pour toi. Tu te disais peut-être qu'il n'y avait pas moyen d'avoir les mêmes émotions ailleurs, que c'était juste prolongé pour prolonger.
Non, je suis sûr que j'aurais pu avoir des belles émotions ailleurs. Elles auraient été différentes. Merci. Pas un mouchoir aussi.
On apporte de l'eau et un mouchoir pour ceux qui les écoutent. Comme ça.
Oh, c'est horrible. Non, j'aurais justement, ça faisait partie de ma réflexion. Est-ce que je pourrais, je me sens bien, j'aime le hockey, je sens que je suis performant, merci beaucoup. Et je sens que je peux apporter encore à des équipes. Et j'aime ça, je me sens bien quand je suis sur la glace. Mais je me suis quand même dit à un moment donné, mais ça représenterait quoi pour moi de faire une saison ou deux dans un autre club? Et finalement je me suis dit que je sais pas si ça représenterait quelque chose d'assez important pour moi, et je pense que c'est le bon moment aussi. On dit qu'on choisit pas toujours sa sortie. J'ai pas été poussé vers la sortie parce que j'avais l'option de pouvoir continuer, mais de pouvoir choisir de finir dans le club de son cœur, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout aussi de pouvoir finir avec ce groupe, c'est cool.
André, est-ce que tout l'amour que tu as montré le public avant le match contre Berne, ça a joué un rôle ou bien ta décision était déjà prise ?
Ma décision était déjà prise.
Ces dernières semaines, justement, elles sont encore plus particulières. Elles étaient déjà particulières parce que c'était les dernières à Fribourg. Là, de savoir que c'est les dernières de ta carrière, avec en plus cette blessure qui arrive, comme beaucoup de blessures au mauvais moment, mais là, peut-être encore plus, t'as encore plus l'envie de voir Gauthieron aller loin pour te permettre de revenir. Tu voudrais pas terminer sur un match, c'était contre qui ? Contre Langnau, je sais plus, le dernier que t'as joué. C'est important de rejouer encore quelques fois avec ce maillot.
Ah, mais je suis totalement confiant sur le fait que je puisse jouer les playoffs. Je sais juste pas quand ça sera. Non, je suis totalement confiant pour ça.
Bon, alors du coup, j'avais pas prévu une très longue partie sur ta...
Je t'ai bien eu.
Ouais, tu m'as bien eu. Tu vois, on arrive encore à être surpris avec André. Sur ta carrière, il y a eu des questions évidemment en lien avec ta carrière. Par exemple, Victoria qui nous demande trois anecdotes de vestiaire que tu peux nous donner, ton top 3 des bons moments que tu as vécu. Pour commencer, des choses qui resteront marquées.
Alors, c'était, je pense qu'on peut tous y en a beaucoup qui se sont passés dans la saison 2012-2013 où j'imagine qu'on vous avez beaucoup enfin j'espère que vous avez lu deux trois anecdotes qu'il y a eu qu'on faisait des sortes de spectacles avant les matchs. C'était vraiment des spectacles, donc ça durait à peu près 5 minutes. Un des spectacles, donc c'était avant l'échauffement sur la glace. Il y a un joueur, je peux dire en fait parce qu'il joue plus haut, okay. C'était Simon Ritz, c'était le deuxième gardien. Pour faire le spectacle, il a dû se déguiser dans les toilettes des juniors élites. Donc il allait dans les toilettes des junior élites et il s'est déguisé en militaire et il avait son arme. Il a pris son arme avec et en fait Kosman ne savait pas du tout ce qui se passait et du coup il a ouvert la porte des toilettes et il a vu son deuxième gardien en échauffement habillé en militaire avec son arme. Il a eu un peu peur. C'était une anecdote qui était pas mal. Une autre, c'était non, je peux pas dire.
La motocyclette, en
quoi? Ouais, deux joueurs qui étaient arrivés en scooter dans le vestiaire avant le match. Et ils ont fait un show de motocross. Donc, on a éteint les lumières. Puis, ils faisaient des dérapages dans le vestiaire. Et donc, il y avait des traces de pneus dans le vestiaire. Et puis, du coup, il y avait l'odeur de l'essence dans le vestiaire, etc. Et ces matchs, on les gagnait après. Hein. C'était du grand n'importe quoi. Ouais, c'était terrible. Je crois que je vais m'arrêter à deux, mais...
T'as jamais revécu ça Alors c'est propre à une saison, on va pas ramener la moto, mais est-ce qu'il y a d'autres saisons où justement il y avait un tel esprit de groupe que vous aviez créé des petits moments hors normes finalement?
Non, mais il y a beaucoup de légèreté dans le vestiaire cette année aussi avant les matchs. En fait, je crois que ça fait du bien d'avoir ce moment léger, rigolo, avant qu'on embarque, parce que on sait que du moment où on arrive sur la glace, ça switch. Puis même des fois sur le banc, c'est agréable. Ça démontre la confiance qui règne dans cette équipe.
T'as déjà préparé ton spectacle pour les playoffs là?
Non, mais je vais peut-être faire quelque chose. Ouais, on verra.
Cette légèreté, on sent qu'elle est importante pour toi. Est-ce que tu sens une évolution quand même? Alors évidemment, toi, t'es arrivé très très jeune dans le vestiaire, tu l'es un peu moins aujourd'hui, mais est-ce que justement le sport, le hockey sur glace est devenu plus sérieux ou trop sérieux peut-être par moment, ou ça reste quand même un grand jeu?
Ça reste un jeu et c'est très important que ça le soit, et c'est important que chaque hockeyeur n'oublie jamais l'enfant qui est en lui.
C'est beau.
Ouais, non, mais c'est vrai. Ça peut aussi jamais oublier d'inspirer les autres enfants. Mais depuis mes débuts, ouais, ça a beaucoup changé. C'était très rock'n'roll au début. C'était pas professionnel du tout par rapport à maintenant. C'est impressionnant le changement qu'il y a eu. Je me souviens qu'il y avait pas d'échauffement avant les entraînements, avant les matchs. C'était vraiment la rigolade. Après les matchs, c'était aussi du grand n'importe quoi, des sorties à tout va. C'était comme ça dans toutes les équipes. C'était pas du tout professionnel. L'été, les joueurs se préparaient n'importe comment. Puis quand nous on est arrivés plus jeunes, puis qu'on voit ça, on était là, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ensuite, les choses évoluent. Et puis je pense que c'est très bien, ça va dans le bon sens. Parce que il faut maintenant être très affûté pour pouvoir évoluer à ce niveau. Et puis je suis fier d'avoir pu jouer aussi longtemps, puis d'avoir vécu tous ces changements de niveau, ces changements de professionnalisme, etc. Puis d'avoir vécu un peu les deux côtés. Et puis en tout cas, ce qui se passe maintenant, c'est très intense, mais c'est beau. C'est beau de voir ces joueurs qui s'investissent autant, qui sont tellement professionnel jusqu'au bout, c'est la classe.
Toi qui as toujours une dose d'humour, des fois un peu plus grinçant que d'autres, t'arrives encore t'épanouir dans ce système actuellement?
Ouais. Faut toujours trouver une zone grise, puis après on peut s'y épanouir. Mais non, c'est voilà, après ça c'est une question de feeling, de timing, de beaucoup d'éléments. On a une saison incroyable, c'est plus facile de faire un gag. Quand tout va mal,
T'as déjà essayé mais...
Ouais, bah oui, t'essayes, puis bah, ça fonctionne pas, quoi. Mais non, là, quand tout va bien, on le dit toujours, ça rigole, c'est cool, quoi.
C'est qui le meilleur public dans le vestiaire ?
Le meilleur public ? Olivier, il rigole quand même à beaucoup de blagues, notre chef Matt. Et bah, parce qu'il est aussi toujours de bonne humeur, et puis c'est le premier aussi à faire des blagues, et puis ouais, il est tout en train de sourire, ou pas.
Est-ce que tu arrives à nous dire quelque chose que tu regrettes qu'il y avait à tes débuts ? Justement, tu dis ça a beaucoup changé, et quelque chose qui te manque pas du tout, par exemple ?
Oh. Franchement, j'adore tout ce qu'il y a maintenant. Sauf peut-être un aspect des réseaux sociaux qui empêche peut-être des fois certains joueurs d'être libres, qui portent trop d'attention en fait à ça, où il y a beaucoup de choses négatives. J'ai l'impression que ça va un peu mieux par contre, mais au début il n'y avait pas du tout ça, et puis c'était très bien, les joueurs portaient pas trop d'attention à ça, et puis c'est très bien.
Toi-même, tu postes pas mal de choses aussi, où tu reprends des... Il y a eu énormément de posts après la banderole justement du match contre... Enfin, le tifo du match contre Berne. Comment tu ressens cet amour du public ?
C'est fantastique. Et puis, j'essaye de répondre à tout le monde. J'essaye de toujours répondre. C'est très important. Parce que ben, ce soutien, c'est énorme. Et puis... C'est la moindre des choses qu'on peut faire. On a beaucoup de temps à tuer. Et mais non, je pense que c'est important de répondre à chaque message, et puis ouais, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, et puis d'essayer d'expliquer quand ça va pas bien, de dire que ben, dans la vie il y a des hauts et des bas, puis qu'on fera mieux la prochaine fois. Mais c'est pour moi, c'est important d'essayer de répondre à tout le monde. S'il y a certaines demandes auxquelles j'ai pas répondu, merci de me le notifier. Mais non, je En tout cas, je le fais depuis quelques temps, et puis j'apprécie.
Ce lien, il est important, justement. Il permet d'entrer un peu en contact. Des fois, vous êtes au milieu de la glace, adulé par 10 000 personnes, mais à quel point tu es proche ou pas du public ? Est-ce que tu as des contacts en dehors, des fois, avec certains ? Enfin, comment ça se passe ?
Ben, pour revenir en fait à ta question d'avant, peut-être ce que j'aurais aimé changer dans ce que je faisais quand j'étais plus jeune, c'est que j'essayais vraiment de mettre une barrière avec le public et puis avec les supporters, chose que j'essaye maintenant de faire différemment, et d'essayer d'être un petit peu plus accessible, même si c'est quand même quelque chose qui est difficile à faire pour moi. J'essaie de faire de mon mieux, et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, on se rapproche énormément, et puis du coup on sent clairement une motivation supplémentaire quand on joue à la maison, parce que on sent tout ce soutien. Et puis on a envie de leur rendre quelque chose. Et puis il y a un truc qui est tout simple à faire en fait. C'est, au-delà de marquer des buts et puis de faire des points, puis de faire des jeux, c'est simplement de jouer avec intensité, et puis de patiner comme un fou, puis d'aller partout. Les gens, ils apprécient quand on se donne à fond en fait. Et puis
tu t'en étais pas forcément rendu compte au début ?
Non, parce que j'étais plus focalisé par aller marquer des buts, aller faire des points, et puis du coup quand ça fonctionnait pas, j'étais un peu frustré, et puis du coup je sentais aussi que la patinoire pouvait être frustrée. Mais j'ai l'impression que même lors d'une défaite, si le public a ressenti que l'équipe a tout donné sur la glace, ça adoucit un peu, quoi.
Est-ce que c'est venu gentiment, ce changement d'état d'esprit pour toi, ou bien il y a eu un déclic ?
Non, je sais pas s'il y a eu un déclic, c'est venu trop tard. Mais je sais très bien que ça soit arrivé, et puis je suis très content de pouvoir avoir cet état d'esprit. Et puis j'espère que les plus jeunes qui arrivent à Fribourg ressentiront la même chose. En tout cas, quand ils jouent dans ce public, ils sentent que s'ils se donnent à fond, qu'il y aura le public derrière eux, et puis c'est très bien.
T'as quand même pris part, une part active à ce changement, comment les gens te perçoivent, parce que c'est vrai que t'as beaucoup scoré, t'étais un joueur très offensif, très spectaculaire, et puis tu as eu un autre rôle, tu as su t'adapter et puis tu as su l'accepter surtout quand même. Et ça, c'est vrai que, en tout cas de l'extérieur, je trouvais assez surprenant. Tu as toujours été positif, tu as pris ça comme un challenge. En tout cas, c'est ce que tu communiquais à l'extérieur. Je ne sais pas, peut-être des fois, il y avait un peu plus de frustration de dire ben, j'ai moins de temps de jeu ou pourquoi on ne me fait plus jouer au centre alors que j'aime jouer au centre. Mais toi, ça ne te dérangeait pas, en tout cas, d'être à l'aile. Tu dis voilà, j'apprends autre chose. Tu mentionnais avant ton efficacité en box-play. C'est des choses que tu n'avais pas finalement au début.
Ouais, puis j'ai toujours tout fait en fait pour pouvoir rester à Fribourg. Et puis ça passait par ça en fait. Parce que si j'étais pas content, j'aurais pu aller voir ailleurs. Avoir un autre rôle, avoir d'autres responsabilités et puis retrouver.
T'as été tenté des fois justement de.
Non.
Jamais.
Non.
Ça t'intéressait pas. Il n'y a jamais eu une offre qui t'a titillé.
Une pour aller jouer en Russie, c'était la seule qui me titillait un petit peu. Mais sinon, non. Non, franchement, non.
Cette offre en Russie, tu regrettes quand même de ne pas avoir essayé ou
ouais,
tenté autre chose?
Ouais, c'est par curiosité, ouais. C'est vraiment par curiosité. C'est d'aller au restaurant, puis de ne pas avoir pris un plat, puis qu'on voit que son voisin, il a pris ce plat, puis on se dit « Ah, ça aurait été pas mal quand même de goûter ça. » Mais le mien était très bon aussi.
Ça tombe bien, alors du côté, il était très bon et gargantuesque parce que je le disais, on l'a dit assez souvent, 19 saisons quand même au plus haut niveau. Est-ce qu'il y en a une qui ressort quand même? Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as pris plus de plaisir qu'un autre?
On discute encore un petit peu plus maintenant ces temps avec Julien, surtout dans le bus. Puis en fait, on s'est dit, ces moments dans le car, c'est des choses... On ne se rend pas compte pendant notre carrière, mais c'est des choses qui sont exceptionnelles en fait. C'est un calme, c'est agréable. On nous balade dans toute la Suisse, dans un joli car. On peut discuter, rigoler avec les copains, regarder les séries. C'est un calme incroyable. Ça, c'est quelque chose que je vais regretter de plus avoir. Ou alors, j'irai à Europa Park en car pour me remémorer sur des souvenirs.
Mais, c'est... Tu peux faire nounou aussi.
Hein?
Nounou de l'équipe, puis aller avec.
Ouais, je crois pas qu'ils auraient besoin de moi. Mais c'est difficile de donner une saison. Il y en a eu tellement qui étaient belles. Et puis les saisons qui étaient moins belles aussi, je les chéris énormément parce qu'elles ont fait de moi aussi qui je suis devenu maintenant. Et puis, toutes les saisons ont été exceptionnelles. C'est difficile pour moi de te donner un bon souvenir. Même les mauvais souvenirs, pour moi, ça reste des excellents souvenirs parce que ça fait qui on est et puis on doit passer par ce genre de moments pour grandir, pour réaliser certaines choses. Et puis, c'était vraiment une belle période.
C'est fort ça quand même parce qu'il n'y a jamais une saison qui s'est super mal passée et puis tu as dit, bon, celle-ci, je la biffe de mon cerveau, elle est oubliée, finie, terminée, classée.
Non, parce que dans chaque saison, il y a des coéquipiers qui te marquent, il y a des anecdotes qui te marquent. Et c'est important de respecter ça et de jamais biffer une saison. Il se passe toujours quelque chose. Et je me réjouis après ma carrière de pouvoir essayer de réfléchir à toutes les saisons que j'ai eues, de revoir avec tous les joueurs avec qui j'ai joué pour réaliser en fait ce qui s'est passé et pas juste mettre ma carrière de côté puis penser à autre chose. J'ai envie de vraiment me remémorer au mieux.
À tes débuts à Gotteron, encore maintenant, en tout cas pour les plus anciens, tu restes le fils de Slava Bikov. À quel point ça a été difficile ou à quel point ça a été un avantage pour toi d'avoir un père qui a tellement apporté à Gotteron, qui a eu un tel niveau, qui a tellement gagné. C'était toujours un avantage ou c'était un poids des fois? Désolé si la question est compliquée.
L'important, c'est la réponse qu'on donne.
Voilà. Alors, bonne chance.
Merci. Hein. Non, il y a eu des moments qui étaient peut-être un petit peu compliqués, les comparaisons qui pouvaient être parfois un petit peu épuisantes, mais non, j'ai l'impression qu'il y a surtout eu beaucoup de bienveillance de la part des gens du club, des gens autour du club. Ça m'a aidé parce que j'ai eu des gènes qui étaient plus ou moins cool pour être qu'ailleurs. Et après... Non, j'ai jamais pris ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, j'ai toujours essayé de prendre ça comme une force. ou de me dire que j'avais toujours un peu son aura autour de moi qui pouvait me protéger de quoi que ce soit. Et peut-être que ça a parfois fonctionné, peut-être que des fois ça m'a joué des tours, mais je suis très fier d'être son fils avant tout. Et je suis très fier de la personne que c'est, de l'hockeyeur, de l'entraîneur, etc. Mais non, je pense pas que c'était trop dur. Même à l'école, c'était ok. Je pense que ça allait. J'étais pas une teigne, je cherchais pas les problèmes. Et du coup, je pense que ça allait. Des fois, il y a eu peut-être un peu de jalousie, mais c'était dans mon enfance. Plus tard, non. Les gens, ils m'ont toujours laissé plutôt tranquille. Et j'ai sûrement eu des passes droits. Mais j'y faisais pas trop attention.
On dit souvent dans le sport que voilà, c'est difficile pour les enfants de se faire un prénom. On peut dire quand même que tu as clairement réussi cette mission. Il y a de bonnes chances que tu aies ton maillot retiré à côté de celui de ton papa. Qu'est-ce que ça représente justement d'avoir autant marqué un club après des grands noms, celui de ton papa, mais aussi celui d'autres joueurs?
Je commence gentiment à m'en rendre compte. Mais je réalise pas totalement. J'ai un problème avec l'idée de retirer son maillot. Pour moi, ce serait quand même tellement cool de voir un joueur évoluer avec le 89 après. Je préférais le voir sur le terrain que de me dire, bon ben voilà, t'es cloué là-bas en haut, puis tu peux plus bouger. Je préférais avoir... Je sais pas si on peut refuser.
Ouais, justement, j'avais demandé, tu serais prêt à refuser?
Mais je serais prêt à accepter qu'on le retire, mais d'accepter qu'un joueur le porte, parce que pour moi c'est important. Si un joueur aime ce numéro, puis qu'il aime jouer à Fribourg, je comprends pas pourquoi il devrait pas pouvoir le faire.
C'est à Zurich, je crois qu'il joue avec le numéro de Fluelaire, là, Rubens, ouais, qui a pris le même.
Et puis il a raison, et puis c'est très bien. Puis je suis sûr que Fluelaire, ça lui pose pas de problème. Ce serait bizarre que ça pose un problème à un joueur, mais après c'est une histoire d'ego. Mais non, je sais pas s'ils vont retirer mon maillot.
Il y a de bonnes chances quand même, non?
J'imagine qu'il y a de bonnes chances. Mais non.
Tu te réjouis pas du moment?
Non, je vais de nouveau devoir pleurer. C'est vraiment, c'est chiant, quoi. En plus, les gens rigolent quand je le fais, donc c'est.
C'est pas cool.
C'est pas cool. Mais c'est extraordinaire de pouvoir jouer toute sa carrière dans le même club. Et je le souhaite à plein de monde. C'est quelque chose d'incroyable. Et puis, ça crée des liens aussi très forts avec la communauté. Et puis, je m'en rends compte maintenant, surtout.
André, quand tu as commencé, quel genre de carrière tu t'imaginais?
Moi, je voulais être le meilleur joueur possible sur la glace. Je voulais battre tout le monde. J'avais déjà envie d'être le meilleur de mon équipe quand je suis arrivé. J'avais envie de faire ma place. J'avais envie de pousser tout le monde, j'avais envie d'avoir le meilleur salaire de l'équipe. J'étais drivé par vraiment montrer que j'étais le meilleur, en fait. Et j'y suis presque arrivé à un moment donné, en fait. Et puis, c'était pas une fin en soi, mais peut-être, à quelque part. Je me suis après un peu peut-être reposé sur ça. Et puis, j'avais peut-être pas, je sais pas, d'autres objectifs, je sais pas. Mais l'objectif premier, c'était vraiment d'être le meilleur. Et puis, évidemment, de gagner avec Fribourg, parce que c'est ce pourquoi j'imagine que tout le monde suit Fribourg, aime Fribourg, veut jouer à Fribourg. C'est le but ultime. Mais je sais pas si je me voyais faire toute ma carrière à Fribourg, mais je crois que je me suis quand même rendu compte assez vite. J'ai assez vite dit que si on me propose un contrat de 10 ans, j'aurais jamais refusé. Ce genre de choses, tellement j'avais de l'amour pour ce club, pour ses supporters, pour... aussi pour Julien, puis je crois qu'on était sur la même longueur d'onde.
Alors si tu nous as surpris, nous journalistes et personnes dans la salle, avec ton annonce, tu as aussi surpris tous les gens qui t'ont posé des questions, parce qu'il y en avait énormément sur ton avenir. Je vais les adapter un peu du coup, mais Lucie Elfer, qu'est-ce que tu appréhendes le plus en arrivant dans une nouvelle équipe? Donc je vais te demander, qu'est-ce que tu appréhendes le plus dans ta nouvelle vie l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des choses qui vont te manquer? Est-ce que ça va
Où je vais mettre mon adrénaline? Et puis, comment je vais me faire pour me passer en fait, de ces émotions? Mais surtout, c'est le vestiaire qui va manquer, et puis les gars, quoi. Je vais essayer de voir si je peux faire l'entraînement d'été quand même. avec cette
surtout
équipe.
Toi.
Exact. histoire de passer le temps, mais non, je...
Tu veux les battre sur 3000 mètres, mais vous faites plus ça.
Ouais, je pense que j'en bats encore beaucoup. Certains, je suis persuadé même.
Et Julon lui demandait, est-ce que tu penses revenir un jour à Gotteron? Alors, tu ne vas jamais partir, mais dans le staff, lui, ça l'intéresse. Est-ce que tu aurais une place qui t'intéresserait? On voit qu'il y a des anciens joueurs qui deviennent directeurs sportifs, entraîneurs.
J'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas si je peux me définir, si je peux être défini que par le hockey dans ma vie, en fait. Est-ce que humainement, je suis que quelqu'un qui doit... être hockeyeur ou qui doit graviter autour du hockey, je ne sais pas. Je sais que j'aurai une certaine légitimité, puis une certaine... je pourrais être d'une bonne aide pour des plus jeunes. Ça, c'est évident que je pourrais aider. J'adore ça, j'adore transmettre à mes jeunes coéquipiers dans le vestiaire. C'est quelque chose qui m'anime énormément, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc j'en ai aucune idée, je vais prendre le temps pour explorer le plus de pistes possibles pour savoir si quelque chose m'anime, quelque chose me convient, tout en respectant mon périmètre depuis Villars-sur-Glâne pour pouvoir être proche de ma famille.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou qui t'excite, qui te réjouit d'être comme ça un peu devant une feuille blanche ?
Il y a les deux. Un jour c'est très inquiétant, un jour c'est très excitant, mais c'est des questions que je me pose depuis pas longtemps non aussi, parce que tout ce mois de janvier, tout ce mois de février, j'essayais au mieux de faire abstraction de mon avenir pour profiter pleinement des derniers moments avec Gotteron, en fait. Et puis dernièrement, j'ai quand même dû réaliser qu'il fallait faire des choix, qu'il fallait discuter avec d'autres clubs, et puis ça coïncide avec le moment où je me suis blessé en plus, mais non, on verra.
On a une dernière question très importante. À quoi penses-tu quand tu te retrouves devant une belle assiette de Yellowtail Jalapeno?
Merci Benoît.
Et oui, Benoît Yecker. Explique-nous cette histoire.
Je pense à Benoît.
Ah, tu penses à Benoît?
Je pense à Benoît.
C'est lui qui a cuisiné.
C'est une des grandes situations où je pense à Benoît Yecker. Je pense souvent à lui. C'est une personnalité très attachante, très intelligente, très drôle. Il est bon public, comme Olivier. Et il est aussi un grand amateur de nourriture, et puis je lui ai fait découvrir un restaurant fusion péruvien japonais, et puis du coup ouais, on partage beaucoup de choses ensemble. En plus, c'est mon coéquipier de place, donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
Merci. Pour terminer, encore quatre petits messages. Je vais les lire. Poxy26, qui n'a pas de questions pour toi, mais qui veut juste te dire merci pour toutes ces saisons. Lily Blue, qui dit juste on t'aime. Kikik70, simplement lui dire bravo, c'est une légende pour Fribourg, qu'il restera dans nos cœurs. Et Aldu1585, qui dit merci pour tout ce que tu as fait pour Gotteron.
Merci, voilà. Merci à vous.
Avant d'aller visiter la patinoire, une offre que Gotteron propose à des groupes tout au long de l'année, une visite très sympa où on apprend et on découvre plein de choses. Nous allons donc vous faire gagner le maillot d'Andrei Bykov,
un
maillot
collector. Hein.
Collector, effectivement. Pour cela, il suffit de répondre à une question. Vous connaissez donc le principe, ceux qui écoutent régulièrement ce podcast. Vous estimez la réponse, vous la notez sur le petit papier, et celui qui est le plus proche gagne donc le maillot qu'Andrei se fera un plaisir de vous dédicacer. Comme vous le savez, donc Andrei a été un attaquant prolifique, connu pour ses magnifiques passes, mais aussi pour ses buts. Il a même été top scorer de Gotteron lors de la saison 2012-2013, et justement... On vous demande combien de points a-t-il réussi, donc buts et assists réunis, depuis qu'il a terminé top scorer de Gotteron en 2013. Donc depuis 2013 jusqu'à maintenant. Vous avez
10 secondes.
Une minute, allez. Après on ramasse.
Voilà, mettez vos noms aussi sur les feuilles.
Bon, hein, un coup de chance des fois, ça aide. Allez.
Votre vision ? Notre expertise. Régibule Immobilier répond à toutes vos attentes. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Retrouvez toutes nos offres sur regibulle.ch.
Voilà, le dépouillement a été fait. On va demander à André de nous donner la réponse.
Je dirais 154.
Ok, c'était volontairement difficile. Je voulais être sûr que personne n'ait la réponse du premier coup, parce que je sais qu'il y a des grands fans. Donc la réponse était saison régulière et play-off compris. Roulement de tambour.
243.
243 points, exactement. On peut applaudir. Hein.
Oh, merci.
Il y en a beaucoup plus sur toute la carrière, mais durant cette période, c'était 243. Et on a un vainqueur, ou une gagnante même.
Une gagnante.
Une
ouais.
gagnante, ouais.
Chalère Jacqueline.
Bravo.
Bravo.
Voilà, donc vous avez gagné un maillot d'André Bikoff. On vous remercie en tout cas d'être venu écouter ce podcast en public. Le premier podcast qui a battu un nouveau record, parce qu'on a un vrai scoop dans le podcast qui n'était jamais arrivé. Donc merci en tout cas André pour le temps consacré et de t'être livré comme toujours avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotion. Et ça nous a fait comme toujours plaisir de t'avoir à notre micro. Merci beaucoup et bonne suite de carrière. De
merci vie. Beaucoup André. Tout merci. Bon et bonne fin de saison. Merci à tous.
C'était Point de vue avec Régibulle Immobilier.
Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gotteron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.